Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine, nous avons décidé de revenir sur les attentats du 13 novembre 2015. Il y a maintenant près de 7 ans, à Paris et Saint-Denis, l'État islamique organisait des attentats qui ont provoqué plus de 130 victimes. Et plusieurs années après, il y a eu cet été le procès qui a été extrêmement suivi par les Français qui sont tous marqués par ces événements terribles. Et j'ai le plaisir de recevoir pour nous parler du programme de recherche 13 novembre l'historien Denis Péchanski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également directeur de recherche au CNRS et vous êtes un des deux coordinateurs de ce programme de recherche transdisciplinaire avec le neuropsychologue Francis Eustache. Et c'est par son ampleur, par sa durée, un programme relativement inédit. Et vous me direz, l'événement étant lui-même exceptionnel, ça méritait sans doute quelque chose d'exceptionnel. Comment est née d'abord l'idée de ce programme de recherche transdisciplinaire, Denis Péchanski ?
Je dirais qu'il a une double origine. La première, c'est qu'avec mon ami Francis Eustache, cela faisait des années qu'on travaillait dans ce qu'on appelle un équipement d'excellence, c'est-à-dire une sorte de plateforme technologique pour mettre au point des outils permettant de comprendre l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. L'idée de base que j'ai vue à fin 2008 quand j'étais à New York, c'était qu'il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passait dans la mémoire collective si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire et qu'inversement, si on voulait comprendre pleinement ces dynamiques cérébrales, il fallait prendre en compte l'impact du social. Donc ça impliquait évidemment de travailler avec des neuroscientifiques, des cognitivistes et puis toutes les sciences humaines et sociales à côté, évidemment, et en même temps de travailler sur de grosses bases de données, des big data en quelque sorte, d'où la nécessité de modélisation mathématique, d'informatique, et donc de mobiliser de très nombreuses disciplines avec une approche résolument transdisciplinaire, c'est-à-dire l'idée qu'on ne... On essaye de se mobiliser ensemble pour construire même notre objet de recherche. Alors que d'habitude, on pose une question dans un domaine donné, une discipline donnée, et puis on demande aux autres de venir répondre aux questions qu'on peut se poser. Là, les questions, on se les pose en même temps. Et ça, c'est là, évidemment, la nouveauté. Donc, à partir de là, arrive... d'abord, on obtient cet équipement d'excellence avec le développement d'outils, avec un fort financement du ministère. Et puis, arrive le 13 novembre 2015, et là on a la même réaction, Francis à Caen, puisqu'il est à Caen, moi à Paris, l'idée qu'on ne pouvait pas laisser faire. Il fallait qu'on réagisse, et qu'on réagisse avec nos armes, c'est-à-dire les armes de la connaissance, les armes de la recherche. Donc on a eu exactement la même idée, mais complémentaire. Moi je me suis dit, aïe, on va faire 1000 entretiens sur la mémoire du 13 novembre 2016, plus 2 ans, plus 5 ans, plus 10 ans. Et on va essayer d'avoir les mêmes personnes, au maximum. On sait bien qu'il y a des gens qui viennent, évidemment, qui ne viendront pas tout le temps, mais on essaye de faire ça au maximum. On le fait de façon audiovisuelle, avec l'INA et le CPAD, les deux structures audiovisuelles qui sont extrêmement reconnues, évidemment, et qui vont nous donner des produits, évidemment, d'extrême qualité, et qui nous permettront à la fois de faire de la recherche et en même temps de participer à la patrimonialisation de la mémoire du 13 novembre. Et en parallèle, donc je téléphone à mon copain Francis qui me dit « Écoute, ça tombe bien parce que moi je me suis dit là, faut qu'on réagisse et nous on va travailler sur le trouble de stress post-traumatique qui est une question absolument cruciale que maintenant les Français connaissent bien et plutôt d'ailleurs sous sous le sigle PTSD, qui est le sigle anglo-saxon, sur le et donc voilà, on démarre là-dessus, et puis après, au fur et à mesure, on a à la fois des soutiens institutionnels et puis une mobilisation de personnel et de laboratoires. Maintenant, on a 31 partenaires dans cette affaire et on a eu un soutien immédiat des autorités, à la fois de nos institutions et puis des autorités politiques, là, du président de la République et puis du Premier ministre, enfin bon, voilà, et de tous ceux qui avaient des décisions à prendre. Parce que bon, une chose est, comme on dit, le bottom-up, c'est-à-dire l'idée, elle se construit du bas et puis on la fait monter vers le haut, mais enfin l'argent, il vient du haut vers le bas, si on veut vraiment le mettre en œuvre. Donc on a été retenu par ce qu'on appelle le Commissariat Général à l'Investissement et on peut développer comme ça un programme sur 12 ans.
C'est 12 années.
12 années, 2016-2028. On a déjà réalisé les trois premières phases, au moins la troisième pour moitié. Et à chaque fois, on a des rapports à remettre et on est évalué. Et si l'évaluation est positive, on continue.
Est-ce qu'on peut dire que par son ampleur, c'est plus de 300 chercheurs mobilisés et plus de 1000 personnes volontaires pour bien nourrir toutes les enquêtes, tous les processus? Est-ce que c'est quelque chose de relativement inédit en France par son ampleur dans la période contemporaine?
On ne l'a pas cherché, mais c'est une première mondiale, tout simplement. Alors, je ne dirais pas nécessairement par le nombre de chercheurs mobilisés, bien entendu. Par exemple, en physique, au CERN, à Genève, il y a beaucoup plus de chercheurs mobilisés ou de personnel mobilisé. Mais quand on travaille sur la mémoire, pour les études sur la mémoire d'attentats terroristes ou d'autres choses, là, c'est vraiment unique. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherchait particulièrement. D'ailleurs, ça nous pose un peu problème, parce que si on veut faire des études comparatives avec d'autres études, avoir d'autres références, c'est un peu compliqué, mais on a malgré tout des contacts avec les États-Unis. Après le 11 septembre, par exemple, des études ont été menées, mais pas de la même ampleur. Là, l'intérêt, pour prendre l'exemple de ce qu'on appelle l'étude 1000, c'est-à-dire les personnes qu'on interviewe, c'est qu'on essaye au maximum d'avoir les mêmes, ce qui fait que on veut comprendre comment évolue la mémoire d'un événement traumatique pour les mêmes personnes, au maximum. Et comme 80% des personnes reviennent à chaque phase, ce qui est honnêtement unique, hein, ça montre un engagement aussi des volontaires, pas simplement de tous les personnels qui sont dans l'affaire. Mais, et ça, c'est très émouvant, je dois dire. Mais ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, je peux annoncer qu'il y a 570 personnes pour lesquelles on a trois interviews en 7 ans, ce qui est 6 ans et demi, ce qui est évidemment unique. C'est une base unique pour qui veut faire de la recherche. Et à chaque fois, en plus, on a des nouveaux et qui nous apprennent de nouvelles choses, un nouvel angle d'approche.
Mais parce que ce qu'il faut bien faire comprendre à nos auditeurs, c'est que c'est à la fois des rescapés, des témoins, des proches, des services d'intervention, de secours, mais aussi des habitants et des usagers qui étaient moins directement impactés par les événements, y compris vous avez interrogé des habitants hors de l'Île-de-France sur le ressenti et la manière dont ils ont perçu dans l'immédiat et puis après dans la durée leur perception des événements.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a quatre cercles. Le premier cercle, ce sont les personnes directement exposées. Le deuxième cercle, les habitants ou usagers du 10e, du 11e, un petit bout du 12e et puis Saint-Denis, donc les lieux de crime, mais qui n'étaient pas directement exposés. Le troisième cercle, ce sont les habitants du reste de la métropole parisienne. Et le quatrième cercle, ce sont trois villes de province, Caen, Metz, Montpellier, ce qui nous permet d'avoir effectivement un échantillonnage du plus proche au plus lointain de l'événement. Et en même temps, évidemment, ils ne sont pas représentatifs de la société française. Donc il fallait qu'on ait à côté une structure comme un institut de sondage. Bon, là, c'est le CREDOC qui fait un boulot exceptionnel sur, depuis 50 ans, qui regarde tous les 6 mois, fait une sorte de photographie ou de radiographie de la société française et qui nous accompagne comme partenaire et qui pose de façon régulière des questions sur la mémoire française du 13 novembre. Et d'une certaine façon, il nous apporte un éclairage sur la mémoire collective du 13 novembre, alors que nous, nous avons évidemment des éléments de mémoire individuelle.
Oui, et du coup, vous essayez aussi d'objectiver ce que les Français ont retenu, ou quels sont les événements liés aux événements du 13 novembre qui ont marqué les Français. Hein. Par exemple, on sait que suite à des études de l'Observatoire des mémoires, qui a interrogé les Français sur les procès qui ont marqué les Français, le procès des attentats du 13 novembre est un des plus marquants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour 62% des Français.
C'est le plus marquant, ouais. Et de très très loin, devant des procès quand même, les procès Pétain, le procès Barbie, et puis des procès aussi de droit commun comme Fourniret, enfin des procès qui ont vraiment été au centre des médias,
de l'actualité
nationale, et donc. Là, vraiment, ça a beaucoup marqué la société française, mais on voit aussi l'évolution. Donc, on a un premier élément de ce que j'appelle une condensation mémorielle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une condensation autour de cette mémoire des attentats du 13 novembre. Et puis, une deuxième condensation mémorielle, quand on pose la question aux Français, quels sont les lieux du 13 novembre ? Il y a une condensation soit sur un espace flou, une référence floue qui est Paris, soit une référence précise qui est Bataclan. Et il y a un effondrement très rapide des références au Stade de France et aux terrasses. Bon. Parce que la mémoire ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne avec l'oubli. Elle se concentre, elle ne peut pas se souvenir de tout, donc elle se suffit des éléments qui lui permettent de donner un sens, de correspondre au sens qu'elle donne à l'événement. Donc, Paris, Bataclan, ça suffit. Mais c'est dramatique, évidemment, pour les personnes qui sont rescapées des terrasses ou du Stade de France, ou qui sont les parents endeuillés, parce que c'est la double peine. Non seulement ils ont souffert ce qu'ils ont souffert, mais en plus, ils ne sont plus relayés dans la mémoire collective. Et c'est là où on rejoint notre approche transdisciplinaire, c'est-à-dire que des personnes qui ont une mémoire de cet événement, qui s'aperçoivent que leur mémoire individuelle n'est pas relayée dans la mémoire collective, développent plus que les autres des pathologies, et en particulier le trouble de stress post-traumatique ou bien de dépression, d'anxiété. Et donc, il est essentiel de rendre compte de la diversité de l'événement, de l'ampleur de l'événement, et je pense, parce que le dernier sondage qu'on a fait était antérieur au procès, je pense que le procès a changé les choses. Je pense que le procès a fait réémerger ces lieux qui avaient disparu de la mémoire collective, à travers donc les témoignages au procès même, et des témoignages d'une très grande force, une charge émotionnelle extraordinaire. Et c'est intéressant ce procès, parce que nous, on a fait les derniers entretiens, la phase 3, au moment du procès, au même moment, Covid oblige, on devait le faire plus tôt, mais bon. Ce qui nous a frappé, là, en regardant ce qui se passait avec le procès, c'est que c'est comme si se construisait, s'illustrait en quelque sorte notre problématique sur la dialectique mémoire individuelle, mémoire collective. C'est-à-dire que les journalistes assistant au procès s'appuyaient pour faire leur papier ou pour leur radio et leur télé sur des témoignages individuels. Des rescapés, des policiers, des médecins, bon. et même des juges éventuels, enfin pas ceux qui étaient évidemment en train de juger, mais d'autres comme experts, pour construire leur récit, qui pour l'essentiel était le même entre les journalistes, d'ailleurs de très très grande qualité. Ils construisent en quelque sorte un grand récit commun. Ce grand récit commun, ils le remettent à disposition de l'ensemble des Français, puisqu'ils sont journalistes, et que ça a été extrêmement suivi. Et donc, ils vont participer, à partir de témoignages individuels, recueillis par eux, à la construction d'une mémoire collective de ce 13 novembre, qui va être, d'une certaine façon, qui va devenir, de façon évidemment dégradée, mais la mémoire de chacun des Français et donc de multitudes de mémoires individuelles. Et cette dialectique, cet aller-retour-là entre mémoire individuelle et mémoire collective, et mémoire individuelle donc, à nouveau, est une illustration, me semble-t-il, assez étonnante, en direct en quelque sorte, de l'intérêt de notre problématique qu'on met en œuvre, quoi, qui est à l'origine de notre programme.
Oui, donc finalement, ça illustre un petit peu la pertinence de votre programme et cette volonté, effectivement, d'approfondir et d'inscrire à la fois les mémoires individuelles qui sont reprises, mais aussi le récit collectif qui finalement est aussi celui de tous les Français.
Oui.
Puisque tout à chacun s'est senti frappé par ces événements.
Oui, c'est un traumatisme pour l'ensemble de la société française, bien sûr. Et en même temps, on va pouvoir éclairer ce qu'on a commencé à faire. Il y a eu nombreux articles dans des revues internationales, premier rang comme Science, sur le trouble de stress post-traumatique. Parce qu'on a un exemple extraordinaire et exceptionnel. On a à la fois... on a d'abord un événement traumatique qui est sur 3 heures maximum, entre 3 minutes et 3 heures, ce 13 novembre-là. Ces personnes sont venues cabosser contre cet attentat-là. Ça leur a complètement bouleversé la vie. Et les rescapés vont accepter, pour une bonne partie d'entre eux, et ils vont revenir d'ailleurs 2 ans plus tard, comme ça on a pu voir les évolutions. Mais 2 fois de suite, ils vont venir à Caen pour un examen psychopathologique, neuropsychologique, et puis de l'imagerie cérébrale. Et on voit comment ça se passe dans le cerveau, comment ça évolue, les capacités de contrôle de la mémoire par la tour de contrôle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la tour de contrôle cognitive que représente le cortex préfrontal, là, ce qui est derrière le front en quelque sorte. Là, il y a des systèmes d'irrigation, de régulation interne vers les fonctions. La fonction de la mémoire, c'est la zone des hippocampes. La fonction les fonctions émotionnelles, c'est les amygdales. Enfin, pas celles qu'on connaît. Vaut mieux pas les enlever, celles dont je parle. Donc, etc., etc. Donc, on a un éclairage parce qu'on a à la fois d'habitude, dans des études biomédicales, on a 2 groupes. Un groupe pathologique et un groupe contrôle. Nous, on a 3 groupes. Le groupe contrôle, c'est des gens qu'on a interviewés aussi, d'ailleurs, mais qui sont à Caen, qui étaient loin de l'événement. Et puis, 2 groupes, en fait, d'exposés. Parce qu'il y a les exposés qui viennent, qui ont toujours un trouble de stress post-traumatique, et des exposés qui viennent, des rescapés, mais qui n'ont plus de troubles post-traumatiques ou de stress post-traumatique ou qui ne l'ont jamais eu. Ce qui fait qu'on peut comparer ces 3 personnes et ces 3 cerveaux, en quelque sorte, ces 3 groupes de personnes, et on peut voir ce que ça donne, et ça donne des résultats absolument uniques qu'on a pu, présenter aussi. Et c'est intéressant parce que là aussi, on voit retrouver les interrogations de la transdisciplinarité parce que on a 2 personnes qui se trouvaient par exemple au milieu de la fosse au Bataclan ou bien dans, sur une terrasse. Bon, prenons l'exemple de la fosse. Ils restent 20 minutes, tous les deux. Ils ne se connaissent pas. Ils sortent au même moment par la même sortie de secours. Donc, ils ont vécu exactement la même chose. C'était côte à côte. On les retrouve un an plus tard à Caen. Il y en a un qui a un trouble de stress post-traumatique et pas l'autre. Pourquoi ? Alors, il y a peut-être des raisons biologiques, ça, il y en a, oui, on peut en retrouver. Mais fondamentalement, ce qu'il y a derrière, il faut le rechercher dans ce que nous apportent les sciences humaines et sociales, et pas simplement les approches par l'imagerie cérébrale. Et là, milieu sécur, pas sécur, un horizon d'attente positif ou pas positif, une vie stable ou pas stable, etc. etc. Donc, c'est là où on recoupe. Vous voyez, l'approche par les sciences humaines et sociales d'un phénomène dont on a des résultats qui relèvent des neurosciences.
Merci beaucoup, Denis Péchanski. On aurait voulu continuer à vous interroger. Il y a encore évidemment plein de choses à dire, mais on aura peut-être l'occasion, puisque la mission, le programme dure 12 ans, de vous réinterroger. Je rappelle que vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et donc co-coordinateur de cette plateforme du programme 13 novembre, qui est d'une ampleur inédite, on l'a dit, même au niveau mondial, sur la mémoire des attentats terroristes de novembre 2015. Et on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation pour 7 ans après faire un éclairage sur ce travail immense, sur ce chantier immense que vous avez engagé avec tous ces centaines de chercheurs et ces milliers de volontaires. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue Poétique et Parlementaire. Et après la première partie d'émission en compagnie de l'historien Denis Péchanski autour de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015, dont nous avons commémoré le 7e anniversaire il y a quelques jours, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Pietrasinta. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chef d'entreprise, Pietra Consulting, mais vous êtes aussi ancien député de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine. Et vous avez été, à partir de février 2016, rapporteur de la commission d'enquête créée à l'Assemblée nationale relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Donc, avant de vous interroger sur le travail que vous avez mené et puis sur ce que vous avez retenu aussi de cette commission et le rapport que vous avez rendu, je voulais vous poser une question personnelle. On a beaucoup parlé avec Denis Péchanski de syndrome post-traumatique à propos des événements du 13 novembre 2015. Et un des symptômes de ce syndrome post-traumatique, c'est que les gens se rappellent très bien ce qu'ils faisaient lors de cette triste soirée et surtout lorsque la France a appris avec effroi ce qui était en train de se dérouler à Saint-Denis et à Paris. Et donc la première question que je vais vous poser, est-ce que vous vous rappelez, vous, ce que vous faisiez ce 13 novembre 2015 ?
Oui, bien sûr, j'étais chez moi en train de regarder le match de foot et puis comme souvent, je zonais entre guillemets sur mon téléphone et sur Twitter. Quand j'ai vu des premières informations arriver et très vite, on a basculé sur les chaînes d'information en continu et assez rapidement dans la soirée, j'ai eu énormément d'appels de journalistes qui voulaient recueillir des informations. Donc ça a été ça un peu ma soirée du 13 novembre, c'était évidemment l'attente. Et puis surtout de pouvoir envoyer des messages, évidemment, à ses amis, à sa famille qui était sur Paris à ce moment-là, ce soir-là, et pour prendre des nouvelles. Donc je pense que ça a été un peu le réflexe de tous ceux qui habitaient en région parisienne, quoi.
Et ensuite, à l'initiative du Parlement, vous avez été... un des acteurs de ce qui s'est passé après les attentats, puisque, je l'ai dit, vous avez été rapporteur de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme, avec Georges Fenech, donc, qui était également député, lui, de l'opposition à l'époque. Comment vous prenez cette mission qui est d'essayer aussi d'éclairer un petit peu, finalement, les Français sur ce qui s'est passé, sur la manière dont les événements se sont enchaînés et aussi peut-être la manière dont on n'a pas réussi à déjouer cet attentat alors que beaucoup d'autres l'ont été.
En fait, je deviens rapporteur de cette commission d'enquête parce que auparavant, j'avais déjà été rapporteur de la loi sur le terrorisme du 13 novembre 2014 et j'avais été parlementaire en mission sur les sujets de radicalisation. J'avais pas mal travaillé les deux années précédentes ces attentats. Donc, malheureusement, j'ai pas été surpris par cet attentat, forcément surpris par l'envergure de cela sur un attentat multisite, par l'ampleur évidemment de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et très rapidement, j'ai été effectivement nommé rapporteur de cette commission d'enquête avec cette volonté de faire une commission d'enquête utile pour le Parlement, utile pour le pays, utile pour les services et utile pour la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agissait pas, en tant que membre de la majorité à l'époque, de faire un rapport qui dédouane de telle ou telle responsabilité ou qui soit uniquement un rapport à charge, mais vraiment un rapport qui se voulait objectif avec des propositions concrètes. Donc on a formulé 40 propositions très concrètes sur les services de renseignement, sur la prise en charge des victimes, des secours, etc. Et ce rapport, entre guillemets, a fait date auprès d'un certain nombre de services de renseignement, auprès d'un certain nombre de ministères, puisqu'il a été très utile en soi. Et ce qui était également particulièrement attendu, c'était la première fois, lorsqu'on a remis ce rapport en juillet 2016, qu'il y avait une chronologie officielle de ce qui s'était passé la nuit du 13 novembre. Quasiment minute par minute, on a déroulé les faits à partir des mains courantes, des services d'intervention, de secours, du SAMU, des pompiers, mais également de la BRI, du RAID, du GIGN, de la police nationale, bref, d'un certain nombre d'entités qui ont permis d'avoir pour les victimes un déroulé extrêmement précis parce que, évidemment, c'était quelque chose qui était attendu par les victimes qu'on avait reçues dans les premières auditions.
Alors, ce qui était attendu par les victimes également, c'était le procès des complices, hein, puisque, on le rappelle, la plupart des terroristes ont été abattus ou bien sont morts lors des attentats, de la commission des attentats. On a eu effectivement cette année a été marquée justement par le début des procès des complices de ces attentats. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette séquence judiciaire qui a été extrêmement commentée, médiatisée, parce que aussi elle correspond à une attente non seulement des victimes, mais aussi de beaucoup de Français qui, finalement, à travers ces procès, revivent ces événements et eux aussi ont toujours envie de comprendre comment ces attentats ont pu être commis en plein cœur de Paris et à Saint-Denis.
Moi, j'ai souhaité, à ce moment-là, être un citoyen attentif, c'est-à-dire que j'ai suivi le procès, évidemment en lisant les articles de presse, en lisant et en suivant des live tweets de journalistes qui suivaient le procès au quotidien et sur toute la durée. Mais je n'ai pas voulu commenter telle ou telle intervention de tel ou tel avocat ou de tel ou tel
partie civile
mis en accusation, etc. etc. Et je pense que la place était à la justice, à la vérité, à la vérité des faits, au déroulé. Et puis c'était la place aussi à ces longues journées de témoignages d'un certain nombre de victimes. Et je pense que le respect vis-à-vis de ces victimes, c'était de ne pas être dans le commentaire et d'être du coup attentif, à l'écoute, mais c'était à un moment donné aussi important pour les victimes de pouvoir se faire entendre, d'écouter et de raconter leur calvaire.
Alors, ce qu'on a entendu aussi dans les témoignages de beaucoup de victimes, C'est au-delà, évidemment, de la sidération pour ceux qui ont perdu un proche et pour ceux qui ont pu survivre et s'échapper, notamment du Bataclan. Il y avait aussi une demande de réparation et même de considération de la part des pouvoirs publics et certaines victimes de ces attentats ou les proches on stigmatisait quand même parfois une difficulté de prise en charge dans la durée. Souvent il y a eu des prises en charge très fortes au moment de la création de cellules d'écoute, de prise en charge psychologique et d'accompagnement, mais ensuite avec la durée, bien certains se sont sentis un peu oubliés malgré la gravité de ce qu'ils avaient traversé.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été marqué par un certain nombre de témoignages, notamment témoignages d'individus que j'avais moi-même auditionné dans le cadre de la commission d'enquête et que j'ai revu à plusieurs reprises au moment de cette commission d'enquête et même après. Donc les témoignages, même s'ils m'avaient raconté les horreurs qu'ils ont vécues ou le calvaire des proches qui sont décédés ou blessés, c'est particulièrement marquant. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait les premières auditions de victimes, on a mis un volet sur effectivement l'accompagnement des victimes qui a évidemment a progressé depuis janvier 2015, en fait, avec la création d'un secrétariat d'État d'aide aux victimes par François Hollande qui a été confié à Juliette Méadel. Et c'est à ce moment-là où effectivement la prise en charge des victimes se fait mieux. Après, elle n'a absolument pas été parfaite et surtout, comme vous l'avez souligné, il y avait un problème d'accompagnement sur la durée. Et c'est vrai que la disparition du secrétariat d'État d'aide aux victimes a été très très mal perçue par un certain nombre de victimes des attentats du 13 novembre et pas que, parce que ça renvoyait un message qui n'était pas un message de soutien. Et je pense qu'il y a effectivement, comme vous le dites, un problème de considération, et la considération, ça passe aussi par une reconnaissance institutionnelle. Et après, effectivement, beaucoup de témoins, beaucoup de victimes ont eu à subir les tracasseries, les embûches du fonds d'indemnisation. C'était quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. Et donc, il y a la question de l'indemnisation et comment réussir à indemniser la perte d'un proche. C'est effectivement des sujets particulièrement compliqués et complexes. Et puis, il y a également l'approche, l'accompagnement psychologique qui est évidemment un élément essentiel et qui se fait peu dans la durée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, plusieurs années après, on a évidemment des victimes de ce qui s'est passé le 13 novembre qui continuent à avoir des répercussions sur leur vie quotidienne, sur leur vie familiale, sur leur vie professionnelle, sur leur vie amoureuse. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui pèse lourdement. Et l'accompagnement sur la durée est quelque chose d'extrêmement important.
Alors, c'est difficile de mesurer ce que représentent les attentats du 13 novembre dans la mémoire nationale, dans la mémoire des Français, mais on a quelques indicateurs et notamment, on a posé une question, l'Observatoire de la justice qui, à travers une enquête d'opinion, a mesuré que pour 62% des Français, le procès des attentats du 13 novembre 2015 était le plus marquant, le plus important depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Très loin devant tous les autres procès qui ont eu lieu depuis 1945, que ce soit les procès liés à la collaboration ou les grands procès comme ceux de Klaus Barbie ou les grandes affaires pénales qui parfois ont défrayé la chronique pendant des mois. Ça vous surprend que ces événements aient marqué à ce point les Français ?
Bah, forcément, c'était un élément traumatique. Après, moi, je cherche pas à faire de comparaison. Moi, j'étais enfant, voire adolescent, quand il y a eu le procès Barbie. C'est quelque chose qui m'avait marqué. C'était le premier procès filmé. Mais je fais pas de hiérarchie dans les procès. Je sais que, évidemment, le procès du 13 novembre a marqué la justice française par la durée
des audiences.
De sa tenue, par le nombre de parties civiles, par le nombre d'avocats, par les moyens humains, financiers qui ont été mis en place, et puis effectivement par le nombre de victimes. 132 victimes, c'est évidemment quelque chose qui est hors du commun. Et donc une nuit tragique hors du commun équivaut évidemment à un procès hors du commun et qui forcément marque les esprits.
Alors ce sera ma dernière question, mais c'est peut-être la question à laquelle vous avez tenté de répondre en tant que rapporteur de la commission d'enquête. C'est que on a eu des attentats avant le 13 novembre, hein, on se rappelle tous le 7 janvier, Charlie Hebdo. Il y a eu des attentats malheureusement après, on se rappelle des drames de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que ce drame aurait pu être évité et que finalement, parfois, c'est une information qui n'est pas communiquée au bon moment, qui est communiquée trop tard, un indice qui n'est pas détecté. Voilà, est-ce que c'est une question qui taraude un peu, je pense, les Français, c'est est-ce que ce drame était évitable ?
C'est difficile de répondre. Ce que j'ai pointé dans le rapport qui peut être encore lu, hein, qui est en ligne, c'est que je ne sais pas si ce drame aurait pu être évité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, que ce soit en janvier ou en novembre 2015, un certain nombre de défaillances ou de failles dans le suivi d'un certain nombre d'individus. Je pense à Koulibaly en janvier, avec l'attentat de l'hypercachère le 9 janvier 2015, aux frères Kouachi, dont le dispositif d'écoute est stoppé. Je pense effectivement à Mimour, un des auteurs de l'attentat de Bataclan, qui effectivement n'est pas suivi, à Mostefai, qui est son complice au Bataclan, qui n'a plus son suivi judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne pointe plus au commissariat et le commissariat ne prévient pas les autorités judiciaires. Il y a effectivement un certain nombre de failles que j'ai pointées. Est-ce que tout ça aurait pu éviter les attentats ? C'est bien présomptueux. On sait que l'État islamique, à ce moment-là, était puissant, voulait frapper la France en particulier. Il y avait d'autres évidemment individus qui étaient mobilisés, pas que des francophones. Donc c'est effectivement assez présomptueux quand on connaît l'histoire voilà, quand on connaît la fin, c'est toujours facile de réécrire l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un certain nombre de failles qui ont été pointées dans ce rapport et que la lutte contre le terrorisme reste perfectible.
Et il faut le rappeler aussi. Grâce à l'action des services de renseignement et de police et de justice, beaucoup d'attentats ont été déjoués, et en particulier dans cette période où, vous l'avez rappelé, l'État islamique avait fait de la France, avec d'autres pays européens, une cible prioritaire.
Bien sûr, vous avez raison de le souligner. Il y a le travail au quotidien des services de renseignement, et j'ai rencontré énormément d'agents qui ont forcément été meurtris par les attentats et sont meurtris à chaque attentat qui se déroule sur le territoire national. Mais vous avez raison de souligner le fait que des dizaines d'attentats ont été déjoués depuis 2012 et qui ont évité un certain nombre de victimes, et qu'il faut saluer l'engagement et le travail de ces forces de sécurité.
Eh bien, c'est fait. Et merci Sébastien Pietrasinta d'avoir accepté notre invitation dans cette émission consacrée aux attentats du 13 novembre 2015 et aux suites judiciaires et à la place que ces événements tragiques conservent dans la mémoire des Français. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise Pietra Consulting, ancien député des Hauts-de-Seine de la 2e circonscription et rapporteur de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, avec votre collègue Georges Fenech, qu'on salue également. Merci beaucoup, à très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.